On va aller parler tout de suite au directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, Luc-Alain Giraldeau. Bonjour, Monsieur Giraldeau.
Bonjour, Madame Maréchal.
Je voulais aborder la question de la deuxième vague avec vous. Là, on discute avec la docteure Laberge puis les auditeurs de des rassemblements en fin de semaine, des mesures sanitaires qu'il va falloir continuer de prendre, les rappeler un peu à tout le monde parce que visiblement, là, depuis les derniers jours, là, on sent là, comme une effervescence au niveau de la santé publique au gouvernement. On semble un peu plus inquiet de cette deuxième vague là, qui nous toucherait. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Europe, prenons l'exemple de l'Espagne, en particulier de Madrid, ça leur est vraiment tombé dessus, là. Il semble dire que la deuxième vague a déjà submergé leur système de santé. Beaucoup d'inquiétudes là-bas. Pour nous, là, il va y avoir la situation aujourd'hui qui va être présentée par le ministre de la Santé tout à l'heure à 13h. Ça sera rediffusé sur nos ondes comme d'habitude. Mais si je vous demande, vous, M. Giraldeau, qu'est-ce que vous comprenez de la situation actuelle en lien avec cette potentielle deuxième vague?
Bien, la potentielle deuxième vague, on en sait trop rien. On s'imagine qu'il va en avoir une. Il faut comprendre que c'est un virus nouveau. C'est un virus qu'on ne connaît pas. Alors, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. On appréhende qu'en ce moment, il y a une augmentation en Europe, dans les autres provinces canadiennes également. Donc, il semble y avoir une recrudescence de la transmission du virus. Mais ce qu'on voit là, dans les chiffres à Montréal, c'est le résultat de ce qui se faisait à Montréal il y a deux semaines. Donc, ça prend un certain temps d'incubation avant que ça se manifeste, qu'on soit testé puis qu'on ait le chiffre. Alors, quand on y pense, il y a deux semaines à Montréal, il faisait vraiment beau. Les gens étaient dehors. Je pense qu'il y avait aussi un feeling que peut-être que c'était derrière nous et que même si on était dehors et on faisait des rassemblements, moi, personnellement, je remarquais que les gens ne respectaient pas la distanciation. Et je pense qu'avec les chiffres aujourd'hui, peut-être que ça va rappeler aux gens que il est toujours là, le virus, et la transmission est toujours possible. Donc, peut-être que les gens vont réagir en se ressaisissant et en étant plus sérieux sur les consignes qu'on nous demande de suivre.
Avez-vous une inquiétude vous-même, comme chercheur, comme scientifique, quand vous dites, là, vous venez de nous dire, bon, ce qu'on vit en ce moment, là, l'augmentation des cas, le nombre de gens infectés au Québec, ben, c'est dû à ce qu'on a vécu il y a deux semaines. Donc, est-ce que ça veut dire que le week-end, le long week-end qui s'en vient, où il y aura effectivement des rassemblements, des mariages, même si Nathalie va faire un plus petit mariage, elle va quand même faire un certain rassemblement. Martin aussi, il y en a plein qui m'écrivent qui ont l'intention de se rencontrer en fin de semaine. Ça, il fera pas trop moche, il va quand même avoir une belle journée dimanche. Donc, est-ce que ça vous inquiète pour ce qui nous pend au nez dans 14 jours?
Oui, ben moi, si les rassemblements sont permis, ils sont permis en respectant les mesures de distanciation et le nombre de personnes qui peuvent être ensemble en même temps. Alors, si le mariage respecte les règles, il n'y a pas d'inquiétude tellement à y avoir. L'inquiétude, c'est si les gens oublient les règles, font de la danse latine ou se mettent à faire des karaokés, dans une situation comme ça, là, ça peut poser un risque. Mais moi, mon inquiétude, comme un chef d'un établissement universitaire, donc l'INRS, mon inquiétude, c'est que je ne veux pas revivre le drame de la première vague où j'ai dû fermer mon institution pendant un certain nombre de semaines où là, tout était paralysé, pas seulement l'enseignement, mais des gens qui font la recherche. C'est dramatique comme conséquence pour une société que toute la recherche soit arrêtée. Alors, c'est moi, comme chef d'établissement, ce que je dis aux gens, c'est on ne veut pas revivre ça. Le premier ministre, sans doute, nous dit on ne veut pas refermer l'économie parce qu'on voit bien les conséquences. Donc, ça a l'air d'une question personnelle, un mariage, un rassemblement, un party, une fête, la fête du travail, on va-tu passer l'Halloween? Ça a l'air d'être une question, mais les conséquences de ces gestes-là sont tellement grands qu'il faut essayer de penser au-delà de juste notre personne et la conséquence sociale de nos gestes.
Ouais. En même temps, le gouvernement du Québec nous dit, c'est vrai qu'il y a une hausse du nombre de cas, mais la situation, on la contrôle. Il reste finalement un faible nombre d'hospitalisations, également de décès, heureusement. Donc, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question que la gestion de la situation aujourd'hui serait probablement assez différente dans une deuxième vague que dans la première vague qui nous a frappé vraiment sans qu'on s'y attende? Il y a peut-être ça aussi qui fait en sorte que les gens se disent, ben écoute, On a appris, on nous le dit beaucoup d'ailleurs, on a appris des derniers 5 mois, on sait un peu plus, les hôpitaux sont prêts, le gouvernement le dit, on serait prêts. C'est pour ça, je pense qu'il y a cette espèce de compréhension, oui, de la part du public, mais qui dit, bof, dans le fond. Mais tout à l'heure, Martin nous disait, dans le fond, n'es-tu pas mieux de tous l'attraper, là? Et ça circule beaucoup, ça, M. Giraldo.
Ben, écoutez, c'est une maladie quand même assez sérieuse, pour surtout pour ceux qui l'ont de façon très, très intense et qui en meurent. Et on sait, dans la première vague, il y a beaucoup de personnes âgées, malheureusement, qui sont décédées dans les CHSLD. Mais maintenant, c'est des gens de la population en général là, qui sont affectés. Et quand il y a de la mortalité, il y en a moins. Mais quand il y en a, c'est quand même un oncle, un père, une mère, une sœur qu'on perd. Fait que c'est... On serait pas mieux de tout l'attraper. On serait mieux de tous être vaccinés, par exemple, quand on aura un vaccin. Mais je pense pas qu'on peut se dire qu'on serait mieux de tout l'attraper, parce que ça serait catastrophique, la quantité de personnes qui se retrouveraient dans les hôpitaux. Les gens qui vont à l'hôpital, là, quand on voit les témoignages des gens qui l'ont eu, ça a l'air assez lourd comme situation. Incapable de respirer, du mal à marcher, une faiblesse extrême. Quand on est rendu à l'hôpital, même si on n'est pas aux soins intensifs, c'est pas agréable. Alors, moi, je pense que il faut pas minimiser les conséquences pour une portion de la population. C'est pas pour tout le monde qui l'attrape, mais pour une portion importante de la population, il faut pas minimiser là, les conséquences. Mm-hmm. Et les conséquences, elles sont sociales, économiques, culturelles. Elles sont à tous les niveaux. C'est quand même, moi, comme biologiste, je trouve ça quand même fantastique qu'un virus ait eu un impact aussi global sur l'économie, la société, nos règles de fonctionnement. C'est quand même extraordinaire, là. Je ne me serais jamais imaginé ça avant.
Est-ce que vous diriez que c'est probablement une des maladies qui aurait eu le plus d'impact sur nos sociétés industrialisées? Parce que, bon, on ne remontera pas à la nuit des temps, mais il y a eu quand même quelques épidémies. On a eu le temps au cours des derniers mois de se les remettre en mémoire. Celle-là, effectivement, par son caractère surprenant à tous les points de vue, c'est vrai que c'était assez inusité, là.
Oui. Moi, j'ai connu la pandémie du sida, par exemple, au cours de ma vie. J'ai pas connu la grippe espagnole. Je suis pas assez vieux, mais le sida, c'est clair que ça a changé beaucoup de choses dans nos vies. Il y a un avant-sida et un après-sida, mais ce virus-ci a eu un effet beaucoup plus généralisé. Et écoutez, je travaille de la maison, ce que je faisais pas avant. Toutes les tours du centre-ville sont peu occupées parce que les gens travaillent de la maison. Donc, c'est quand même un effet assez généralisé. Il y a des entreprises qui vont faire faillite et qui sont dans des domaines qui n'existeront peut-être plus dans 5 ans parce que ça aurait été un changement dans notre façon de vivre et de consommer qui aura changé profondément notre économie aussi. Puis je pense que c'est un défi qu'on a à relever comme société, le défi économique de cette pandémie. Mais est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Tout le monde dit qu'il va en avoir une, mais on n'a aucune idée de ce qu'elle va avoir l'air. Est-ce qu'elle va être plate et longue ou est-ce qu'elle va être très rapide comme la première?
Merci beaucoup. Luc Alain Giraldo, directeur général de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. On s'arrête ici. Vos commentaires après la pause au 514-790-9850. Et la Doc Laberge, bien sûr, est toujours avec nous. Donc, si vous avez des questions aussi, c'est le moment de lui poser. À tout de suite, tout le monde. When you lift me higher, out on the fire, out of the flames. I lost a fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival. On a Sébastien qui est avec nous. Bonjour Sébastien, je pense que vous aussi vous allez dans un mariage, vous êtes musicien, c'est bien ça? Est-ce que c'est un gros mariage?
Ouais. En fait, on m'a dit que c'était un petit mariage. Moi, je suis le guitariste, fait que je voudrais dire que j'ai pas de lien particulier avec les gens qui vont se marier. On est engagé en effet pour un petit mariage, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on va voir là, en arrivant là-bas ce que ça a l'air. Comme groupe, nous autres, évidemment, on cherche l'ouvrage, on cherche à travailler, évidemment, comme bien pour ça. Ça fait partie un peu de la contradiction de ce qu'on peut vivre en ce moment. J'avais par contre aussi un message, un auditeur tantôt qui a appelé pour dire qu'on devrait toute la pogner, puis ça serait un peu plus réglé, puis tout ça. Puis j'avais envie de dire, c'est un peu un argument qu'on entend souvent, là, l'espèce de l'immunité collective, puis une façon de se débarrasser de ça. J'avais envie de dire à cet auditeur-là que s'il y avait des noms des membres de sa famille ou de ses proches qui voulaient mettre sur une liste de personnes à sacrifier pour qu'on soit tous immunisés, ben il est bienvenu. On va pouvoir en tenir compte au moment
rendu là. Ouais, vous y croyez pas que c'est une bonne solution, ça?
Ben non, parce que ça sert à rien. Comme je dis, c'est vraiment de mettre des gens sur une espèce de tirage de courte paille de qui c'est qui va être plus malade que d'autres. Ça n'a aucun sens.
Donc vous, Sébastien, dites-moi, est-ce que vous êtes au courant des mesures, par exemple, qui vont être prises à votre mariage, là où vous êtes musicien? Donc, en théorie, je ne sais pas si vous êtes sur une scène, est-ce que vous savez de quoi ça va avoir l'air?
Nous autres, on va être sur une scène, évidemment. On fait notre installation d'équipement puis de tout ce qu'on a à faire, là, les soundchecks et tout ça. On fait ça dans l'après-midi avant que les invités arrivent. Et après ça, on quitte. Et on revient plus tard dans la soirée pour faire l'animation et puis la musique.
OK. Puis est-ce qu'il y a une partie karaoké?
Non.
Il n'y en a pas?
Il n'y aura pas de karaoké. Et puis, il y a un DJ plus tard dans la soirée. Nous autres, on fait une partie de l'animation pour la soirée. Il va y avoir un DJ pour mettre de la musique. C'est une des affaires bizarres parce que je pense que les gens qui se marient, par exemple, en tout cas, selon qu'on a entendu, sont quand même assez au fait de ce qui se passe pour que ils n'auront pas le droit de danser. Nous autres, on fait de la musique, des mariages en particulier, c'est évidemment pour faire danser les gens, pour les faire participer, puis les faire réagir.
Ben oui, puis là, ils ont l'air d'être équipés quand même, les mariés. Là. Il y a vous un band, vous êtes combien dans votre band?
Demain, on va être 4.
OK. Puis après ça, il y a un disc jockey, fait que ça veut dire quand même qu'ils ont un gros budget musique. Là. Ça doit pas être un petit mariage de 10 personnes.
pour vrai, c'est pas. En tout cas, c'est pas parce que je veux chialer, mais c'est pas un gros budget.
Ah non! Ah ouais. Bon, c'est quoi le nom de votre band, là? Si jamais il y a des gens qui veulent vous engager, on va les encourager?
Demain, c'est un groupe, c'est même pas un band qui existe. Dans le fond, c'est des musiciens qu'on a engagés pour faire événement-là.
Okay.
Officiellement, le groupe s'appelle le Greenwoods and the Grass dans un autre contexte meilleur. Qui est plus approprié à se produire, disons, dans les festivals puis tout ça.
Bon, ben merci. Merci beaucoup, Sébastien, de votre appel. Merci bien. Annie, bonjour. Avez-vous l'intention de vous rassembler en fin de semaine?
Non, j'ai pas l'intention de me marier non plus. Non, c'est une blague. bonjour à vous deux. Pour répondre un petit peu à la question qu'on demandait, bon, est-ce qu'on fait attention à tout ça? Oui, on fait attention avec un papa qui dort avec un appareil respiratoire tous les soirs. Donc, on évite les contacts si possible. Moi, j'aurais une question pour Dr Laberge.
Oui.
J'ai une entreprise en maquillage pour enfants depuis 2008. Et quand on parle de maquillage pour enfants, bien sûr, on parle de foires, on parle d'événements comme la Saint-Jean-Baptiste, l'Halloween, les cabanes à sucre et j'en passe. Donc, je le dis même avec chagrin, parce que d'après vous, Dr Laberge, malgré que dans nos passés de maquilleurs, il y en a sûrement qui m'entendent en ce moment, on a un antibactérien, on nettoie nos pinceaux, mais on sait très bien qu'on est très, très proche des enfants. Donc, malgré que, oui, le gouvernement a mis en place que les maquilleurs, les coiffeurs, les tatoueurs ont pu reprendre leur activité, de notre côté, tout ce qui est événementiel, comme M. Rinaldo disait avant, il y a des métiers qui vont appeler à mourir d'ici les prochains 5 années.
Vous inquiétez de votre métier, là, c'est ça, Annie?
Écoutez, parce que vivre de notre passion, c'est un cadeau qu'on a de pouvoir faire ça. Le nombre de fois, j'ai dit des enfants, il va toujours en avoir, donc toujours, il va y avoir du travail.
Il nous reste peu de temps. Votre question à Dr Laberge, c'est quoi exactement?
Oui, au fait, d'après elle... On parle de voir des enfants aux 45 secondes, 1 minute et demie. Donc, le temps de nettoyage entre chaque demi-terminé, c'est quasi impossible.
OK, donc vous voulez savoir, est-ce que c'est est-ce que c'est sanitairement correct de le faire encore, c'est ça?
Oui.
D'accord, merci Annie. Doc Laberge, très rapidement, il nous reste 2 minutes.
La désinfection des pinceaux antibactériens, en quelque part, ça ne nous regarde plus parce qu'on a antiviral. Donc, il faut les laver à l'eau et au savon, ce qui n'est pas très bon pour les pinceaux, ou à l'alcool. Et l'autre chose, c'est que actuellement, si on suit à la CNESST dans les plateaux de télé, les maquilleurs sont très, très, très évacués des plateaux de télé actuellement. Et pourtant, on en a besoin, hein, s'il vous plaît. L'autre chose, c'est que l'Halloween, cette année, la rumeur médicale dit qu'il n'y en aura pas.
Ouais.
Parce qu'il faut aller proche de vous, il faut aller saucer d'un bonbon, il faut aller tout ça, de telle sorte que les rapprochements de ce type-là ne seront probablement pas autorisés, surtout que c'est d'une maison à l'autre.
Mm.
Donc, bravo pour la rue complète où on va passer. Donc, au niveau du maquillage, compte tenu de la proximité, c'est clair que si vous avez le masque, la visière, que vous avez 3 enfants que vous connaissez et que vous fréquentez, vos petits neveux que vous fréquentez sur une base régulière et ils font l'école à la maison, par exemple,
ça
à ce moment-là,
pas.
Probablement.
Mm-hmm.
Mais pour dans un événementiel, la réponse serait probablement avec visière, masque, sécurité et très limitée au niveau, tu sais, au niveau. Et l'autre chose, c'est que je vais être méchante, là. En as-tu vraiment besoin?
Mm-hmm. Ben, c'est un peu le débat du karaoké, là. C'est,
exactement. C'est... Et pour la musique, tantôt,
ouais.
Il faut faire attention parce que les gens qui viennent demander les demandes spéciales vous le font dans l'oreille les 3/4 du temps.
Mm-hmm.
Ayez un tableau effaçable. Deuxièmement, un DJ, c'est bien le fun, mais quand la musique est dans le plafond comme elle est habituellement dans ces événements-là, qu'est-ce que ça fait? Ça te force à parler plus fort.
Mm.
Quand tu manges et que tu parles plus fort, tu projettes plus loin. Donc, s'il vous plaît, mollo la musique pour pas que les gens soient obligés de l'enterrer en parlant et précipitent leurs gouttelettes le plus loin possible.
Voilà. Mais je retiens que tu dis, si vous pensez être plus que 10, c'est clair, allez dehors.
Idéalement,
hein?
Oui.
Et là, c'est là où ça va nous amener à discuter dans les prochains jours avec le froid qui arrive.
Oui.
On va tous, on va tous revenir en dedans. Fait que là, ça risque de compliquer les choses dans les semaines qui suivent. Merci beaucoup, docteur Christiane Laberge, d'être avec nous. Toujours passionnant d'entendre tes bons conseils, Christiane. Bonne fin de semaine. On va s'arrêter ici après la pause. Je vais vous demander qu'est-ce que vous avez acheté le plus en ces temps de pandémie. C'est fou, là. Au-delà du papier de toilette, puis de la farine, puis du 2x4, il y a bien d'autres choses qui ont été consommées. À tout de suite, tout le monde.